This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tour d'Europe, votre podcast hebdomadaire sur l'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et le programme est un petit peu plus léger en ce lundi parce que les fêtes approchent et qu'il faut savoir garder un petit peu des forces pour la suite. On commencera malgré tout avec le gros dossier qui agite l'Angleterre ces derniers jours. Évidemment, l'affaire Cristiano Ronaldo. CR7 écarté, est-ce que Ten Hag est plus fort que jamais? On verra tout ça avec Philippe Auclair. On enchaînera avec la Ligue 1 pour se pencher sur le cas de l'Olympique de Marseille. Trois défaites sur les trois derniers matchs de Ligue 1. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'OM? On discutera de ça avec Elton Mokolo. Et on enchaînera enfin et on terminera même cette émission pour parler de la Roma de José Mourinho, battue par le Napoli dans le choc de Serie A. Guillaume Maier-Faccini nous expliquera pourquoi Mourinho est toujours aussi aimé à Rome. Voilà pour le programme. Petit rappel, Tour d'Europe est à retrouver en podcast chaque semaine, tous les lundis matins, sur vos plateformes préférées. Il suffit de taper Eurosport FC pour le retrouver sur vos plateformes. Et sinon, évidemment, rendez-vous sur eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de l'émission en vidéo. Voilà, le petit topo est fait. Alors, on peut se lancer tout de suite. Tour d'Europe, c'est parti. Allez, on commence ce Tour d'Europe par l'Angleterre parce que y a du nouveau dans le top 4. On accueille Philippe Auclair, notre spécialiste de Première Ligue. Salut Philippe.
Salut toi.
On a des Magpies qui sont plutôt que prévus à la fête et qui sont donc quatrième ce lundi matin de Première Ligue.
Oui, qui profitent d'une jolie série de résultats de leur part et de résultats moins enthousiasmants de la part des autres candidats pour le top 4. Mais ce qui est exact, c'est que malgré l'investissement net absolument faramineux de Newcastle depuis janvier 2022, je rappelle et je le rappelle à chaque fois, mais que Newcastle a dépensé, je dis bien en net, 240 millions de livres sterling, c'est-à-dire 270-280 millions d'euros en net. C'est davantage que quelque autre club au monde. Donc, ceci explique peut-être un petit peu cela. Mais malgré tout, on ne s'attendait pas nécessairement à ce que Newcastle progresse aussi rapidement. On se disait plutôt, l'année dernière, c'était consolidation, on évite la de la descente, on se place dans le top 10 ou juste en dehors du top 10. L'année prochaine, on s'installe en milieu de tableau, on commence à regarder peut-être même du côté d'une place en Ligue Europa ou d'une place en conférence. Et puis en fait, non, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Alors, ce n'est pas enthousiasmant au niveau du jeu.
D'accord.
Il y a peut-être un effectif qui monte encore un petit peu de densité. Il y a bien évidemment toujours autant de questions qui se posent autour du mode de fonctionnement de Newcastle qui fait beaucoup, beaucoup parler en Angleterre. Je ne vais pas vraiment te choquer si je te dis que leur camp d'entraînement pendant la Coupe du Monde, ça sera en Arabie Saoudite. Bon, c'est en fait Arabie Saoudite FC, avec tous les problèmes politiques et moraux que cela suppose, et qu'il faut mentionner, car nous les mentionnons fréquemment ici en Angleterre. Du point de vue sportif, Eddie Howe fait du très très bon boulot, mais ça, ce n'est pas une énorme surprise non plus. Ce qui en est peut-être une, c'est de voir en effet cette équipe être là où elle est maintenant, aussitôt. Alors, est-ce que ça va durer? Attendons, oui. C'est à la faveur de quelques résultats un petit peu étonnants, où Tottenham qui marque le pas, Chelsea et Manchester United qui s'annulent, etc. Bon, et c'est vrai qu'il y a Liverpool qui n'est pas le grand Liverpool, qui continue de tâtonner, il a encore montré ce week-end. Donc Newcastle, en fait, profite de cela. Évidemment, ils sont aidés, comme Arsenal avait été aidé l'année dernière, par l'absence de compétition européenne.
Oui.
Ce n'est pas rien. Le fait que leur effectif va être sans doute moins affecté par la Coupe du Monde que l'effectif des autres concurrents. Et donc, c'est à prendre très, très au sérieux. Et ils sont en avance sur le programme qu'ils avaient établi. Ça ne fait absolument aucun doute.
Alors, le gros match ce week-end en Première Ligue, Philippe, en tout cas sur le papier, c'était le duel entre Chelsea et Manchester United. Alors, ce match, il a été un petit peu vampirisé par un seul homme qui n'était pas présent, Cristiano Ronaldo. Pourquoi ? Parce que Cristiano Ronaldo avait refusé d'entrer en jeu face à Tottenham. Cristiano Ronaldo a été écarté de l'équipe face à Chelsea. Première question toute simple, est-ce que en Angleterre, on considère que cet acte moral de Ten Hag est peut-être le premier pas vers sa prise de pouvoir complète à Manchester United, ou est-ce que, en tout cas, on donne plutôt raison à Ten Hag plutôt que de le blâmer de ne pas choisir Cristiano Ronaldo dans ses 11 titulaires?
Alors, il y a quelques très rares voix qui se sont élevées pour soutenir ou expliquer la position de Cristiano Ronaldo, et je dis bien très très rares.
D'accord.
Celle qui a le plus de portée est celle de Roy Keane, bien évidemment l'ancien capitaine de Manchester United, qui s'est un petit peu emberlificoté en essayant de trouver des excuses qu'il ne trouvait pas véritablement. Et sur quoi on a répondu, Roy Keane, Roy, si jamais tu avais été entraîneur de l'équipe dans laquelle tu as un tel joueur qui fait ça, je ne pense pas que tu tiendrais le même discours. Et en fait, non, la plupart, je crois que dans tout le reste de l'opinion, et également parmi l'opinion mancunienne au passage, on ne considère pas que ce soit le premier pas de Eric Ten Hag, on considère plutôt que ce serait le dernier, en ce sens que maintenant, ça y est, c'est son équipe.
D'accord.
Il a mis sa patte. La décision de mettre Cristiano Ronaldo à l'écart, ou en tout cas de ne s'en servir qu'au compte-gouttes, ne date pas d'hier. Là, il avait un cas disciplinaire à régler, parce que non seulement il avait refusé d'entrer en jeu, mais il était parti du stade avant ses coéquipiers.
C'est vrai.
Donc, de ce côté-là, il a appliqué la règle comme il l'aurait appliqué pour n'importe quel autre joueur. Ça ne veut pas dire qu'on ne reverra pas Cristiano Ronaldo sous le maillot de Manchester United. À mon avis, après le mea culpa, l'espèce de mea culpa, on va dire, qu'il avait
sans
publié
excuse,
sur...
Sans excuse, mais mea culpa
ouais,
quand même.
Voilà, c'est ça. Mais c'était un mea culpa, donc on devrait le revoir pour l'Europa League. Et pour le reste, par contre, il est évident que Ten Hag va continuer avec une formule qui lui réussit, parce que ce que tout le monde voit, c'est que Manchester United joue mieux sans Cristiano Ronaldo, ce qui n'est une surprise pour absolument personne.
Oui, on a vu les résultats, notamment face aux grosses équipes, c'est une nouveauté pour Manchester United. Hormis la défaite face à Manchester City qui avait beaucoup fait parler, c'est plutôt très positif jusqu'à présent.
Oui, c'est très positif dans la mesure où Erik ten Hag a un style de jeu qui était déjà le sien quand il était à Utrecht, quand il était à l'Ajax, qu'il veut faire partager par cette équipe de Manchester United, et qui implique donc de ses joueurs, de ses attaquants, qu'il participe beaucoup plus au pressing. Or, Cristiano Ronaldo n'est pas du tout ce type de joueur. Il n'a plus les jambes de ses 20 ans, il aura bientôt les jambes d'un homme de 38 ans, excusez du peu, même si jamais il prend grand soin de lui, ce que tout le monde sait. Il n'a plus du tout les mêmes capacités physiques qu'il avait du temps de sa splendeur. Et il est statique. Ten Hag préfère des attaquants beaucoup plus mobiles. Donc, ça va être en effet Jadon Sancho, ça va être Anthony, ça va être Anthony Martial également quand il n'est pas blessé.
Oui.
Ça va être, j'en oublie un, Jadon Sancho, bien évidemment. Et puis Bruno Fernandes aux baguettes. Et en fait, on s'est rendu compte que Bruno Fernandes fonctionnait beaucoup mieux lui aussi lorsque son compatriote n'était pas là. Ce qui, au passage, est une question que je pense la sélection portugaise va devoir se poser. La sélection portugaise qui a, au passage, je le mentionne en passant, mais c'est un nouveau problème parce qu'en plus des absences de Diogo Jota et Pedro Neto, deux joueurs de Première Ligue qui s'ajoutent à la très, 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 très longue liste. On en dira un mot, je pense.
Hein. Oui.
On en dira un mot dans une seconde quand on va parler de Raphaël Varane, des dernières nouvelles de Raphaël Varane. Mais en l'occurrence, pour Cristiano Ronaldo, je crois que c'est l'aventure mancunienne, si on peut appeler ça une aventure. Le retour se termine mal. Et donc maintenant, tout le monde sait que Manchester United est prêt à laisser partir le joueur pour rien au mois de janvier. Ça les délestera d'un très gros salaire, ça les délestera d'un problème en vestiaire,
oui,
et ça pourrait peut-être permettre à Cristiano Ronaldo de terminer sa carrière, j'allais pas dire la tête haute, parce que là, il a déjà dû la baisser un petit peu, beaucoup, mais de la terminer certainement de manière un peu plus digne que ce qu'on en voit en ce moment, où c'est une espèce de longue agonie, où on le voit sans le voir, et quand on le voit, il boude. Non, un joueur comme celui-là se doit à lui-même, en tout cas, de finir sa carrière autrement.
La grande question, Philippe, c'est quoi la suite ? Parce que on avait déjà cette problématique cet été, à savoir
exact.
Que finalement, aucun des plus grands clubs européens, ou en tout cas des clubs auxquels prétend Cristiano Ronaldo, ne s'intéresse réellement à lui. Et on a, ces dernières heures, un petit peu la résurgence de la rumeur Chelsea. Est-ce que c'est une vraie possibilité de voir Cristiano Ronaldo à Chelsea dès cet hiver, ou en tout cas dans 6 mois ? Enfin voilà, est-ce que Cristiano Ronaldo à Chelsea, c'est une possibilité ?
C'est une possibilité et je m'étonne en te disant ça parce que très honnêtement, là encore une fois, sportivement, je vois absolument pas la logique. Mais le fait est que Todd Boehly, donc qui est le propriétaire minoritaire de Chelsea et le directeur exécutif, en tout cas celui qui prend les mesures qui comptent pour Chelsea, est quelqu'un qui s'est beaucoup rapproché de George Mendes ces derniers mois. Ce qui évidemment veut tout dire. Et d'autre part, Chelsea n'a pas véritablement de directeur sportif attitré. Chelsea a des assistants, des consultants. Et Boehly, en fait, qui n'est peut-être pas nécessairement le plus grand des experts en matière de football, je veux pas dire qu'il ne connaisse rien, je peux te dire par là que ça n'est pas un directeur sportif à la Campos, par exemple, voire même à la Longoria, il s'est improvisé, entre guillemets, directeur sportif lui-même. Donc il y a une petite vacance du pouvoir, je dirais, à ce niveau-là à Chelsea. Et si George Mendes sait jouer son coup correctement, et je lui fais confiance, il y a peut-être une carte à jouer de ce côté-là. Et on peut se dire, en effet, oui, peut-être du côté de Chelsea, ça pourrait le faire. Qui ont-ils comme avant-centre en ce moment?
C'est vrai.
C'est Pierre-Emerick Aubameyang et puis pas grand monde derrière. Alors Kai Havertz, bien sûr, peut jouer à cette position, mais en véritable avant-centre, qui a-t-il d'autre? Pas grand monde. Et franchement, au vu d'ailleurs de la performance de Aubameyang contre Manchester United, où il a raté tout ce qu'il a entrepris, on pourrait comprendre éventuellement. Alors, mais cela dit, un gros problème, c'est le salaire. Il va falloir que Cristiano Ronaldo revoie son salaire très largement à la baisse et oublie tout ce qu'on peut, prime à la signature et compagnie. En ce moment, on parle d'un salaire qui est à hauteur, enfin bon, c'est un demi-million d'euros par semaine. Qui peut se permettre ça? Je veux dire, c'est une poignée de clubs. Chelsea en fait partie. Malgré tout l'argent qu'ils ont dépensé, ils en font partie. Donc, c'est une possibilité. On ne va pas aller plus loin, très
Ouais,
honnêtement, que cela.
on n'est
Et
pas
je crois
sûr
que...
que Graham Potter soit totalement enchanté de récupérer le cadeau, au passage.
Non, non, ce n'est pas vraiment le type de joueur avec lesquels on a l'habitude de le voir, que ce soit avec Östersund, ça c'était totalement hors de question, avec Brighton ou même avec ce Chelsea. Graham Potter n'est pas un entraîneur de superstar, entre guillemets. Et autre chose également quand même qui va avoir un impact, ça va être la performance de Cristiano Ronaldo au Mondial.
Bien
Si on
sûr.
voit un grand Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise, il est possible que d'autres clubs se montrent, se disent tout compte fait, bah, ça vaut peut-être le coup de tenter l'aventure, à condition bien évidemment que financièrement, encore une fois, le
Soit
camp
d'accord.
Ronaldo revoie ses desiderata à la base, ce qui évidemment, de leur point de vue, est totalement possible. Je veux dire, c'est pas Cristiano Ronaldo n'en est pas à son dernier million d'euros, voire même à son dernier 10 millions d'euros, voire même, je pense, à ses derniers 100 millions d'euros.
Oui.
Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais en effet, la piste de Chelsea est une possibilité.
Alors, l'autre image forte, ou en tout cas l'autre moment fort de ce Manchester United-Chelsea, il y a eu le but de Casemiro. Avant ça,
Oui.
il y avait eu les larmes de Raphaël Varane, tu en as parlé. Est-ce que tu as peut-être des nouvelles à nous donner? On a redouté le pire et il semblerait qu'il y ait encore une toute petite chance.
Voilà. Les premiers examens médicaux qui ont été faits par le staff médical de Manchester United semblent montrer que la lésion n'est pas aussi grave que ce que l'on craignait. Mais il faut dire que ce que l'on craignait, c'était une lésion qui aurait éloigné Raphaël Varane des terrains jusqu'au Boxing Day, voire au Nouvel An.
Ouais.
Donc, c'est mieux. La possibilité, de toute façon, ce type de blessure musculaire, on n'en revient pas en l'espace d'une semaine. Je pense qu'au mieux, on verra un Raphaël Varane qui aura repris l'entraînement avant la communication des listes, ou un entraînement léger, au moins, avant la communication des listes par Didier Deschamps le 9 novembre. Donc ça veut dire que il est probable, sachant l'attachement que Deschamps a à Varane,
Oui.
qu'il va lui laisser une petite place au chaud, en tout cas garder cette porte ouverte, et il pourra la laisser ouverte avec raison. En ce sens que ça n'est pas le gros, gros accident que l'on craignait. En tout cas, ce sont les premières
Oui,
indications.
bien sûr.
On en aura d'autres d'ici 48 heures environ.
Est-ce que ça veut dire que Harry Maguire va redevenir titulaire à
Non.
Manchester United? Non, même pas.
Non.
D'accord.
Non, parce que d'une part, Harry Maguire lui-même a des problèmes physiques,
D'accord.
et que d'autre part, si jamais il n'avait pas de problème physique, c'est lui qui serait entré sur le terrain à la place de Varane, et c'est pas lui, c'est Lindelof, en
D'accord.
l'occurrence, qui est entré sur le terrain. Lisandro, quant à lui, est totalement indéboulonnable,
Oui.
et à ses côtés, donc, ce serait plutôt Lindelof qui prenait sa place.
Est-ce que je vais élargir un tout petit peu. On sait que la Première Ligue est le championnat le plus physique, etc. Est-ce qu'on a beaucoup de joueurs blessés à l'approche de cette Coupe du Monde? Et est-ce qu'il y a une crainte dans tous les clubs que ça se multiplie dans les semaines qui viennent, et
Oui.
notamment au niveau des joueurs? On sait que peut-être certains vont être un peu moins réticents à aller au combat. Est-ce que c'est un débat qui existe aujourd'hui en Angleterre?
En effet, le débat existe pour la simple raison que les blessures s'accumulent. Là, donc, on a eu Raphaël Varane. J'ai déjà cité les cas de Diogo Jota pour Liverpool et Pedro Neto, donc deux de la sélection portugaise.
Il y a
Il y
Reece
a le cas
James pour Chelsea
Reece
avec
James, qui est
N'Golo Kanté.
N'Golo Kanté avec Chelsea. Alexander Isak, hein, de
Tout à
Newcastle,
fait.
qui est out également. Je ne veux pas dire de bêtises, mais Arthur Melo, le Brésilien de Liverpool, qu'on n'a pas vu, qui est blessé. Et je dois en oublier encore Boubacar
Oui.
Camara, qui est un
Oui.
outsider également pour l'équipe de
Clairement.
France, qui lui aussi est out. Et en fait, quasiment toutes les semaines, mais c'est à cause du rythme absolument hallucinant que les clubs sont obligés de suivre en ce moment, avec des journées de championnat à mi-semaine. Et quand ce n'est pas une journée de championnat à mi-semaine, c'est la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Conference League. Donc, de ce côté-là, c'est vrai qu'on a très peur. On a déjà, donc, oui, pratiquement une dizaine de joueurs de premier plan qui vont manquer le mondial, qui ont de fortes chances de manquer le mondial à cause de cela. Et avec la répétition des matchs avant la Coupe du Monde, évidemment, il va y en avoir d'autres. Et puis derrière, nous ajoutons la Coupe du Monde et ses séquelles.
Ouais.
Et, très honnêtement, je pense que le Boxing Day 2022 risque un petit peu d'être le gala des éclopés. Je ne sais pas dans quel état les clubs et les équipes seront au retour de Doha, mais à mon avis, on les aura vus plus frais que cela. Et quand je pense que parmi les choses qu'avait dites Gianni Infantino, enfin, il a dit beaucoup de choses, c'est vrai, il disait, oui, c'est formidable, on va avoir une Coupe du Monde dans laquelle enfin on aura des joueurs qui sont frais. Ben, mon cher Gianni, non, pas du tout, ça sera plutôt l'inverse. Ils seront cramés, déjà. Parce qu'en fait, on a commencé la saison plus tôt, on n'a jamais commencé la saison aussitôt, Cyril, que cette année en Angleterre, et c'est précisément à cause de la Coupe du Monde. Donc ça a raccourci la pré-saison, raccourci la préparation physique. D'ailleurs, les préparateurs physiques s'arrachent les cheveux en se demandant mais comment on peut faire? Et donc après, on a enchaîné quasiment un match tous les 3 ou 4 jours. Alors c'est faisable, on peut le faire, mais il y a un prix qui se paye. Et vu le niveau d'intensité dans les engagements qu'il y a en première ligue, où il y a plus de sprints à haute intensité que dans quelque autre championnat, eh ben ça se paye par des blessures musculaires. Et voilà, Varane est le dernier dans une longue, longue série qui est loin d'être terminée, hélas.
Bah, pour voir la liste complète, rendez-vous sur eurosport.fr puisqu'on a un article qui récapitule tout ça et qu'on met à jour chaque semaine. Bah, merci beaucoup, Philippe.
Merci à
Rendez-vous la
vous.
semaine prochaine, comme d'habitude, pour parler Première Ligue. Et nous, on va revenir en France pour parler de l'Olympique de Marseille. Allez, on va parler maintenant de la Ligue 1 et on accueille Elton Mokolo, notre spécialiste. Comment ça va, Elton?
Bonjour Cyril, je vais très très bien.
J'ai l'impression que tu as passé un bon week-end qui s'est conclu par un feu d'artifice qui t'a plu.
J'ai passé un très bon week-end de Ligue 1 et d'ailleurs on va en parler. En fait, je vais te dire la vérité, Cyril, j'ai cherché, j'ai encore cherché le 0-0 type Ligue 1. Et ben,
N'y en a pas
malheureusement,
eu.
il n'y en a pas eu. C'est quand même une bonne nouvelle. Hein.
C'est une bonne nouvelle. Alors justement, t'avais envie de commencer cette intervention, pardon, par un chiffre, 365. Ce n'est pas le nombre de jours dans une année, c'est le nombre de buts qu'on a eu depuis le début de saison en Ligue 1, en 12 journées. C'est du jamais vu depuis 78-79, si je dis pas de bêtises. On est parti sur une saison record. Et plus que les buts, on a aussi des projets de jeu clairement identifiés. Et c'est ça qui t'interpelle dans cette Ligue 1 2022-2023.
Et c'est pour ça que je suis très content cette saison, à savoir qu'il y a des équipes qui sont tournées vers l'avant, qui ont envie de marquer des buts. Et il y a un écho, que ce soit en termes de classement, parce que quand tu vois les 6 premières
C'est
équipes,
vrai.
elles ne nous ont pas forcément déçus au niveau des attentes dans le jeu. Et à côté de ça, on voit que du côté de la Ligue 1, on a vraiment la volonté d'aller chercher le but qui va faire la différence. Encore une fois, ce week-end, il n'y a pas eu de 0-0. C'est quand même à signaler.
Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est vraiment que une question de mentalité tactique ou est-ce qu'il y a aussi bah, techniquement simplement des meilleurs joueurs qu'il y a 10 ans, les profils recherchés sont plus forcément les mêmes? Comment on explique cette régénérescence entre guillemets de la Ligue 1 depuis Alors, on parle de cette saison, mais ça fait déjà une ou deux saisons qu'on sent un vent nouveau souffler sur le championnat.
Oui, tu l'as évoqué, il y a une combinaison de plusieurs facteurs, à savoir l'apport des entraîneurs. L'apport des entraîneurs qui est quand même qualitatif. Tu vois que ce soit français ou étranger, parce qu'on a très souvent l'habitude d'opposer les entraîneurs français et les entraîneurs étrangers. Et là, je pense qu'il y a une bonne combinaison. Et ensuite, la qualité des joueurs qui a quand même progressé, parce qu'on est sur un championnat qui accueille des joueurs qui sont beaucoup plus intéressants qu'il y a une dizaine d'années, avec des possibilités économiques qui sont très importantes, et elle le fait aussi que cette saison il y a quand même 4 descentes.
Oui.
Donc on serait quand même avisé du côté de certains clubs d'aller chercher ces fameux buts qui nous permettront de se sauver. Et donc par rapport à ça, on a un championnat qui est quand même très ouvert.
Ouais, gestion un peu moins stratégique, mais parfois d'aller chercher le résultat et les 3 points plutôt que 1 point qui pouvait contenter davantage par le passé. Quoi.
Exactement. Là, pour le coup, l'importance et les 3 points n'a jamais autant pris son sens.
Dernière question avant de passer à notre sujet principal qui concerne l'Olympique de Marseille. Entre le but de Wai et le but de Messi, lequel tu préfères?
C'est une très bonne question. Allez, je vais quand même mettre Wai, parce que le but de Wai, est complètement improbable. Voilà, c'est l'inspiration. Lionel Messi, je pense qu'il est victime du fait qu'il nous a quand même habitués à ça.
C'est vrai.
C'est-à-dire que vous allez demain sur les réseaux, vous allez voir des compilations de Lionel Messi. On n'est pas surpris.
Oui, on n'est pas surpris, c'est vrai. Mais on vous conseille d'aller voir, parce qu'en plus d'avoir beaucoup de buts, souvent, il y a des pépites dans le lot, et entre celui de Wai et celui de Messi, il y a une vraie compétition ce week-end. Elton, on va parler d'un but un petit peu moins beau, puisque c'est une frappe détournée, mais un but ô combien important du RC Lens, puisque Lens est allé s'imposer face à l'Olympique de Marseille. On va parler d'abord de Marseille, si tu veux bien, Elton. Alors que se profile la Ligue des Champions, on a l'impression, c'est pas une impression d'ailleurs, on a une crise de résultats actuellement à Marseille. 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Alors il y a cette victoire au Sporting qui fait beaucoup de bien en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, l'OM patine. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette crise de résultats?
On sait que du côté de l'Olympique de Marseille, dès qu'on gagne 3 matchs de suite, on a tendance à se dire on va jouer le titre. Et quand on gagne, quand on perd par contre 3 matchs, on va se dire du côté de Marseille, voilà, c'est la fin du monde. Mais à côté de ça, il faut quand même regarder de plus près la nature des matchs. À savoir que pour moi, le seul véritable accro, c'est Ajaccio. Ajaccio, à savoir que tu mènes 1-0, tu finis par perdre contre Ajaccio, qui est un candidat au maintien. Ensuite, tu as le PSG, une défaite entre guillemets classique, 1-0 face au PSG. Et là, tu as une défaite sur une rencontre au sommet contre le RC Lens, après un match où, quand tu regardes la tonalité générale des interventions du côté du staff lensois, des joueurs lensois et du staff marseillais et des joueurs olympiens, et bah tout le monde est unanime pour dire que l'Olympique de Marseille a quand même fait un très bon match. Mais le football, comme le dit Carlo Ancelotti, c'est d'abord des résultats, et le résultat est une sanction. Et donc par rapport à ça, l'Olympique de Marseille enregistre sa 3e défaite. Donc j'entends bien, à savoir que du côté des détracteurs du côté de l'Olympique de Marseille, les résultats ne sont pas forcément bons en ce moment. Mais à côté de ça, au regard de la qualité de jeu, moi, j'ai quand même envie d'être optimiste.
Pour corroborer ça, on a regardé un petit peu les expected goals. Donc, vous savez, ces buts attendus en fonction des occasions produites. Face à Ajaccio, ils sont à 1,6. Face à Paris, ils sont à 1,2. Et face à Lens, ils sont à 1,4. Et quasiment systématiquement, hormis face à Paris, il y a une vraie différence par rapport à l'adversaire. C'est-à-dire que là, Lens a fait un gros résultat. Et Ajaccio aussi avait fait un gros résultat en termes de réalisme. Alors, justement, cette question de réalisme, on l'a déjà évoqué dans Tour d'Europe cette saison. Est-ce que l'OM et pas parfois manque un peu d'un tueur devant, ou en tout cas d'un joueur pour finir ces talents offensifs qu'on sent dans le jeu, mais qui tardent à se concrétiser sur le tableau d'affichage?
Au final, c'est dans la continuité de ce qu'on voit depuis le début de saison. Côté marseillais, on l'avait vu à l'occasion des matchs de préparation, à savoir qu'en termes de buteurs, il n'y en a pas du côté de l'Olympique de Marseille. Tu regardes la nature de l'effectif olympien, il n'y a qu'un seul joueur qui a réussi à faire une dizaine de buts en championnat, dans les 5 grands championnats, c'est Alexis Sanchez. Et donc, c'est la marge de progression côté marseillais, trouver ce fameux buteur, ce fameux grand attaquant qui va réussir à mettre ses buts qui seront impératifs pour aller en Ligue des Champions.
Est-ce qu'il faut attendre plus d'Alexis Sanchez, justement, qui se démène beaucoup, mais qui a lui aussi parfois un peu de déchets devant le but, ou, voilà. Comment trouver cet équilibre-là, sachant que tu l'as dit, il n'y a pas de buteur à proprement parler dans l'effectif marseillais. Il faut bien que quelqu'un marque des buts à un moment.
Bah, c'est la beauté du football, à savoir qu'Alexis Sanchez nous avait agréablement surpris, mais maintenant, Alexis Sanchez, on entre dans le 3e mois de compétition, il est particulièrement étudié.
Oui.
Et donc, à partir du moment où il est étudié, on a vu Danso qui a fait un gros match face à lui. On sait très bien qu'Alexis Sanchez, ce n'est pas l'attaquant qui va attaquer la profondeur, ce n'est pas un neuf. Et donc, par rapport à ça, il va falloir lui trouver un autre contexte. Est-ce qu'on va le reculer pour mettre un attaquant beaucoup plus classique, type Dieng ou Suarez, ou alors on va persister avec lui? Moi, je suis très curieux à l'idée de savoir qu'est-ce que va faire Tudor, notamment lors du match contre Strasbourg samedi prochain.
Ouais, avant ça, il y aura Francfort. Là aussi, match très important pour l'avenir de l'Olympique de Marseille avec une potentielle qualification en huitième de finale. C'était inattendu. À tes yeux, étant donné les résultats qu'il y a eu face au Sporting avec cette composition-là et ce duo Harit Sanchez qui, pour le coup, semble plutôt adapté au contexte Ligue des Champions, est-ce qu'il faut garder cette doublette-là ou est-ce qu'il faut trouver une autre alternative devant, dans le choix des joueurs?
Je pense qu'aujourd'hui, il faut garder cette doublette. D'accord. Il faut garder même le trio, puisque
oui,
j'inclus Guendouzi, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que Tudor a une croyance limitée envers Dieng et Suarez, pour des raisons différentes, à savoir que Dieng, à partir du moment où il a loupé la préparation et même le début de championnat, parce qu'il y avait un possible transfert qui a finalement été avorté, il a perdu la dynamique olympienne et donc il doit se refaire. Ensuite, Suarez, on voit que c'est un joueur, on l'utilise au compte-gouttes. Donc je pense que Tudor, surtout sur un match d'une importance capitale pour l'avenir olympien du côté de la Ligue des Champions, va rester sur ce trio parce que, encore une fois, il y a quand même eu les occasions face au RC Lens. Il est question de réalisme, il est question de finition et j'ose espérer que la nature, enfin le match sera différent face à Francfort.
Alors, on a parlé de l'OM, il y a une équipe dont on parle peu, mais qu'on aime beaucoup regarder chaque semaine et qui, en plus, cette saison est devenue un peu plus efficace, peut-être un peu plus mature même. C'est le RC Lens qui est dauphin à l'heure actuelle du Paris Saint-Germain. Jusqu'où ça peut aller, cette aventure incroyable des nordistes?
Jusqu'où ça peut aller, ça on ne sait pas, mais aujourd'hui, Lens est un candidat déclaré au top 5.
Ouais.
Pour moi, c'était l'objectif du début de saison. Il fallait être européen du côté du RC Lens pour valoriser le projet lensois, savoir que chaque année, il y a une progression qui est attendue, même si on peut perdre des joueurs importants en cours de route, même si on peut perdre son directeur sportif, le projet continue d'exister et de très belle manière. Et donc, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse du côté du RC Lens, c'est son caractère compétitif. Le caractère compétitif qui fait que c'est une équipe. Là, on est sur une troisième victoire de suite au Vélodrome. Excusez du peu. Même le PSG ne l'a pas fait ces dernières années parce qu'il y avait eu un match nul la saison dernière. Donc, ça démontre bien que le RC Lens est une équipe qui est capable non seulement de poser des problèmes à tout le monde, ça on le savait, mais surtout de faire en sorte que c'est un candidat déclaré au top 5.
Même au podium, on a envie de dire. En plus, ce qui est paradoxal, c'est que devant leur recrue star, à savoir Openda, est un peu en crise de but actuellement. Et pourtant, Lens continue d'avancer. On est sur l'archétype d'une équipe où il y a un peu un dépassement de fonction. Et une fois, c'est un but de Fofana. Une fois, c'est un but d'un défenseur. On a l'impression que cette équipe peut... est devenue beaucoup, beaucoup plus complète. Est-ce que toi, tu vois, alors on a parlé de Marseille, le Paris Saint-Germain est dans une catégorie à part. Est-ce que tu vois d'autres équipes de Ligue 1 qui ont tout cet environnement-là autour, avec en plus Bollard qui est un peu le 12e homme?
Non, pas forcément, parce qu'on voit bien que tout est réuni pour voir Lens performer. Et c'est quand même un paradoxe, parce que tu l'as évoqué, Lens est compétitif alors que Lens n'a plus marqué plus d'un but par match depuis fin août.
C'est ça.
Et donc, ça démontre bien que c'est surtout le secteur défensif, parce qu'on aime bien accoler l'image d'un Lens qui est offensif, tourné vers l'avant, à raison. Mais à côté de ça, Danso, pour moi, avec Bemba, fait un gros début de saison parmi les défenseurs centraux en Ligue 1. Medina est très important, donc on voit qu'ils ont
Samba,
cette capacité. Samba qui goal, est pour moi, c'est un très bon transfert.
Ouais,
ça,
excellent.
Le dire, il faut le dire avec force, avec conviction. C'est un très bon transfert. Donc on a un secteur défensif qui est performant. Et donc on a une attaque qui, pour l'instant, n'est pas encore rodé pour différentes raisons, à savoir que Openda, il doit succéder à Kalimuendo qui avait quand même mis 12 buts la saison dernière. Et donc, le fait de ne pas avoir un secteur offensif performant pour l'instant du côté lensois, ça ne porte pas à conséquence pour l'instant. Mais on a dans l'idée qu'à un moment donné, ça va devoir progresser avec peut-être une équipe qui sera davantage mieux rodée en termes d'affinité technique, en termes de combinaison, en termes de connaissance, parce que Openda doit se greffer à la machine lensoise. Donc, c'est pour ça que Pour l'instant, ça ne prête pas à conséquence, mais on a dans l'idée que le secteur offensif va devoir aider Lens, notamment quand il y aura des matchs un peu plus compliqués où il faudra mettre un peu plus d'un but.
Ouais, le jour où ils vont carburer offensivement, faudra surveiller encore plus près, encore de plus près le RC Lens. Merci beaucoup, Elton.
C'était un plaisir.
Et ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer la Ligue 1. Et nous, on va partir tout de suite en Italie. Et allez, on termine ce Tour d'Europe par une virée en Italie. On retrouve Guillaume Maier-Pacini, notre spécialiste de Serie A. Guillaume, je crois que tu as pleuré tout le week-end et que tu es encore sous le coup de l'émotion, puisque évidemment l'image marquante de cette semaine en Serie A, ce sont les adieux de Franck Ribéry.
Écoute, oui, c'était un moment quand même assez particulier, même si je suis très émotif, oui. Cyril. Je pense que tout le monde l'a été, parce que voir Ribéry terminer sa carrière de cette manière-là, alors lui est déçu parce qu'il l'a dit lui-même, il aurait voulu choisir quand arrêter. Mm-hmm. C'est vrai que ses problèmes de genoux l'ont obligé à dire stop dès maintenant. Et voilà, il y a eu les applaudissements, il y a eu les chants de la part des supporters de Salerne. Et c'est vrai que lui a été submergé par l'émotion. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est deux choses, Cyril. C'est que la première, il va entrer dans le staff de David et Nicole, qui est son entraîneur, parce qu'il veut rester proche du terrain. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'il devrait démarrer assez rapidement, on va dire, son cursus pour devenir entraîneur, parce qu'il l'a confirmé à la Gazzetta samedi dans une interview où il a dit « Moi, mon objectif quand même, c'est d'être proche du terrain et de devenir entraîneur à court moyen terme. » Donc, d'ici peu, d'ici quelques années, voir Franck Ribéry entraîner Cyril, ça nous mettra un coup de vieux, mais c'est en tout cas dans les plans du joueur.
Il y en a de plus en plus, hein, des coups de vieux, de toute façon. En parlant de nostalgie du passé, Guillaume, il y avait une autre image forte ce week-end en Italie. C'était le retour du duo Galliani-Berlusconi avec Monza face à l'AC Milan. Alors, ça s'est soldé par une nette victoire de l'AC Milan, mais là encore, image assez caractéristique de la Serie A.
Écoute, c'est la première fois que Milan affrontait Berlusconi. C'est la première fois que Milan et Monza s'affrontaient dans un match officiel. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de nostalgie, beaucoup d'émotions. On a vu Galliani qui a été filmé très longuement parce que lui assiste à tous les matchs du Milan quand ce n'est pas celui de Monza. Donc, en fait, c'est un match assez particulier pour lui. Et c'est certain que revoir à San Siro une légende comme Galliani. Berlusconi, on ne l'a pas vu, on ne sait pas s'il était là.
D'accord.
Mais c'est certain qu'on parle quand même d'un duo qui a gagné 5 Ligues des Champions, qui a gagné 8 Scudetti. Donc, c'est deux dirigeants qui ont fait l'histoire de ce club légendaire de 86 à 2017. Et les voir un peu en adversaire pour la première fois, voilà, c'était assez, un moment assez intense et assez, tu l'as dit, nostalgique du côté de San Siro samedi à 18h.
Guillaume, l'autre info quand même, niveau Serie A, c'est évidemment cette série toujours plus folle qui continue pour le Napoli. Encore vainqueur cette fois-ci de la Roma. Alors plutôt que de parler du Napoli dont on a parlé ces dernières semaines, on avait envie de parler avec toi de l'AS Roma de José Mourinho avec un chiffre zéro, comme le nombre de tirs cadrés hier par l'AS Roma face au Napoli. Qu'est-ce qui se passe autour de cette équipe de la Roma qui était un petit peu une des curiosités de la saison en Serie A, qui est pour l'instant cinquième, mais qui a beaucoup, 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 beaucoup de mal à mettre tout simplement des buts.
Tu peux même rajouter un beaucoup.
Ah ouais.
C'est vrai qu'elle a beaucoup de difficultés, ses attaquants aussi. Si on prend Bellotti, si on prend Abraham, qui a été tellement fort la saison dernière et qui a beaucoup de mal cette saison, et si on prend Shomurodov, qui est un attaquant qui aurait dû partir cet été, mais qui n'est pas parti, mais au-delà des statistiques comptables des attaquants, c'est vrai qu'on a un problème de production offensive. Tu l'as dit, zéro tir cadré, c'était une première depuis 2015. C'était contre Naples déjà, mais c'était cette fois au San Paolo à l'époque. Mais c'est vrai qu'il y a dans un choc et dans un match où la Roma quand même aurait pu afficher ses ambitions, peut-être même de titre, parce qu'elle est là au classement. Mais c'est vrai qu'hier, dans un Olympico qui était plein, on s'attendait à plus. Et c'est vrai que c'est une équipe qui a été trop timide, trop heureuse, qui joue beaucoup, Cyril, aussi sur l'aspect émotionnel, un peu comme son entraîneur. Voilà, elle est toujours très gladiatrice, justement, à Rome. Mais c'est vrai que devant, on a manqué de tout. On a manqué de folie, on a manqué de créativité. L'absence de Paulo Dybala joue forcément sur ce manque-là. Mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas que tu n'es pas un tir cadré. Ça n'explique pas que les attaquants ne se procurent même pas une occasion. Et face à une équipe qui a tout ça, qui a de la folie, qui a du génie, et ben hier, ça a manqué de tout côté Roma. Alors, la Roma, quand même, on ne peut pas dire qu'elle joue mal cette saison, parce que Souvent, elle se procure beaucoup d'occasions, mais elle ne marque pas. Mais c'est vrai qu'hier, elle s'est procuré zéro occasion et elle a été très décevante. Et juste avant de parler avec toi, Cyril, j'ai quand même lu la presse italienne et globalement, quand même, on reproche à la Roma son manque d'audace. Et forcément, on pointe le doigt un peu du côté de José Mourinho, à qui on reproche un peu son côté un peu peureux, entre guillemets.
Donc, c'est la faute de Mourinho ou c'est la faute des attaquants? Sans doute un petit peu des deux, tu vas me dire, mais comment est-ce que c'est le plan de jeu de Mourinho qui fait que cette équipe de la Roma soit aussi inactive, on a envie de dire presque, dans sa production? Ou est-ce que c'est la forme incertaine des buteurs dont tu as parlé, que ce soit Belotti, que ce soit Abraham, qui cause la perte de cette Roma-là?
Écoute, il y a un peu des deux, mais tu sais, Cyril, Mourinho est toujours Mourinho. Il ne s'est pas inventé un style, il ne s'est pas rénové.
Non, on aurait pu se dire qu'avec le temps, il allait peut-être se détacher de son idée. Non, pas du tout. Okay.
Non, pas du tout, pas du tout. Il y a encore hier, il a pris un carton jaune, tu vois. Donc, Mourinho fait toujours du Mourinho. Ce qui le sauve la saison dernière, on s'en souvient, c'est le titre en Conference League. Mm-hmm. Mais sinon, Serie A, il ne fait pas une grande saison. Il ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de difficultés. Et au niveau du jeu, Cyril, si on parle vraiment purement du jeu, depuis que Mourinho à la Roma, honnêtement, c'est très, très, très compliqué. C'est très léger. On peut parler du début de semaine aussi. Ils vont gagner à Gênes 1-0 contre la Samp, qui est dernière en Serie A. Donc, au niveau purement du jeu, c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés avec le Mourinho. Ouais. Et quand on voit comment les attaquants ont du mal à se procurer des occasions, alors c'est aussi de leur faute parce que parfois, ils n'arrivent pas à les convertir, notamment dans des matchs précédents. Et depuis le début de la saison, on l'a vu souvent. Mais hier, quand même, dans un match pareil, on a vu une Roma très agressive, très, très sujette à ses émotions. Et c'est vrai que Mourinho, tu le sais, il a toujours ce caractère-là, ce caractère gagnant. La Roma en avait besoin. Et c'est vrai que Mourinho, on en a parlé souvent dans Tour d'Europe, a toute l'équipe derrière lui, a toute la ville derrière lui.
Ouais, et tout, ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé.
D'accord.
Tout le monde fait bloc avec Mourinho, toute la presse, tous les supporters, tout le vestiaire. Mais nous qui sommes en dehors, qui sommes observateurs, on voit quand même une Roma qui, au niveau du jeu et de l'identité, quand tu vois le Napoli qui s'est totalement rénové cet été, on en a parlé, et qui a réussi à créer en peu de temps un jeu, une production, et on l'a dit, un spectacle incroyable. Quand tu vois la Roma que c'est toujours aussi latent quand même, ben on est en droit aussi de demander à Mourinho des comptes. Lui s'est défendu, s'est mis en conférence de presse en disant « Mais non, nous on produit, sauf qu'on ne marque pas ». Il n'y a eu ni production, ni but.
Sur le cas Mourinho, j'ai une autre question, Guillaume. On a l'impression que à Rome, mais a fortiori en Italie, il a trouvé un peu le contexte idéal pour lui, c'est-à-dire que, tu l'as dit, une ville complètement derrière lui. Revoyez les images de la Curva dimanche au moment de l'annonce de son nom. Vous verrez à quel point la passion pour José Mourinho est intacte. Il est dans un championnat qu'il connaît bien. On lui reproche un peu moins de choses peut-être qu'en Première Ligue, ou en tout cas, il est peut-être un peu moins exposé. Est-ce que José Mourinho à la Roma, ça peut durer plus de 3 ans? C'est un peu son temps habituel.
Cyril, il paraît que l'amour dure 3 ans, donc on verra bien, mais en tout cas, moi je pense que oui. Je pense
D'accord.
que oui, parce que à Rome, vraiment, ce qui est important, c'est de garder l'environnement compact.
L'identité,
c'est vrai
que ouais.
Presse, radio, supporters, vestiaires, joueurs, tout le monde avec lui. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun signal d'alarme qui fait que Mourinho pourrait partir ou pourrait être envisagé comme démissionnaire. Voilà. En ce moment, tout le monde fait bloc à la Roma. Les dirigeants ont un projet avec lui d'au moins 3 ans. Donc, normalement, il devrait rester. Et puis, voilà, tu l'as dit, Mourinho, il adore l'Italie, il adore la presse, il adore jouer avec les journalistes. Il adore ce côté où on parle de foot tout le temps. Mais c'est sûr que quand on rentre un peu dans les détails, on va dire, d'un football, Cyril, qui évolue quand même. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, les supporters regardent de la Juve, par exemple, qui gagne, qui regagne depuis peu. Mais les supporters ne s'en contentent plus. Aujourd'hui, les supporters ont aussi besoin de s'amuser. Ils vont au stade pour prendre du plaisir. Pour l'instant, à la Roma, on ne dit rien. On s'en contente. Et c'est vrai que cette immunité aussi autour de Mourinho découle de ce titre européen que la Roma n'avait pas connu depuis très, 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 très longtemps. Et en tout cas, voilà, moi, en tout cas, je vois bien Mourinho rester encore quelques années à la Roma, sauf si lui en décide autrement ou si, on va dire, il n'est pas content du projet qui va arriver ou des investissements.
Ouais, c'est un changement, mais sinon…
En tout cas, à l'instant T, il n'y a aucun motif, aucun signal qui ferait que Mourinho parte au classement. La Roma, elle est là. L'objectif, c'est le top 4. Il est clairement toujours dans les clous. Mais c'est certain que nous, en tant qu'observateurs, on s'attend à plus parce que quand tu as Abraham, quand tu as Dybala, quand tu as Pellegrini, quand tu as une force offensive comme tu as aujourd'hui à Rome, bon, on a le droit de s'attendre à un peu plus au niveau de la productivité. Et c'est vrai qu'hier, moi, je suis resté clairement sur ma faim parce que c'était un gros choc. C'était le moment aussi pour la Roma d'envoyer un signal. Mais c'est le Napoli plutôt qui l'a envoyé parce que le Napoli, depuis le début de la saison, a gagné à Rome contre la Lazio, contre la Roma. Elle a été battre Milan. Donc hier, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, ce n'est pas la Roma qui a fait un gros coup, c'est Naples. Et aujourd'hui, la vraie force du championnat italien, c'est Naples. Et c'est pas la Roma.
Voilà pour la page italienne et voilà pour ce nouveau numéro de Tour d'Europe. Petit rappel pour vous, si vous nous écoutez en podcast, Tour d'Europe est à retrouver chaque semaine sur toutes les plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC, qui est la page qui regroupe tous les podcasts football d'Eurosport. Il y a Tour d'Europe le lundi, mercredi Mercato le mercredi et le FC Stream Team le vendredi évidemment. N'hésitez pas à nous noter, n'hésitez pas à parler de l'émission autour de vous. Et si vous voulez voir les meilleurs moments de l'émission, évidemment rendez-vous sur Eurosport. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Ce sera Arthur Merle, cette fois-ci, aux commandes. Et vous verrez que vous n'allez pas forcément perdre vos changes. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.